Bonsoir tout le monde. Au nom des organisateurs de la marche, donc bienvenue à cette conférence et merci d'abord à la municipalité de Ferrand-Ardenois de nous accueillir comme ils nous avaient accueillis lors de la marche de 2014, donc dans cette belle salle. Donc ce soir, dans le cadre d'une marche, je ne sais pas si tout le monde le sait, donc je vais le rappeler rapidement, dans le cadre d'une marche organisée sur toute la semaine qui a commencé dimanche à Crane et qui se terminera samedi à Crane aussi. Dans le cadre d'une marche consacrée au souvenir de l'offensive 17 et des mutineries de la même année, où nous nous rendons à la fois sur les lieux où les soldats ont combattu et les lieux où les soldats se sont reposés, on pourrait dire, parfois entraînés, en tout cas entre les moments où ils étaient sur le front et qui sont aussi les lieux où ils se sont souvent mutinés. Donc toute cette semaine, nous marchons. Nous arrivons aujourd'hui à faire. Nous étions toute la journée sur les traces de la mutinerie du 162e régiment d'infanterie et de la 69e division donc à Ronchères et à Coulonges. Demain, nous serons sur les traces de la mutinerie du 18e Herry entre Villers-sur-Fer et Beuvard. Ça, c'est de la mutinerie du 70e BCP. Et puis nous continuons comme ça jusqu'à samedi. Donc ce soir, nous avons le privilège et le plaisir d'entendre André Loez nous parler des mutineries. Si quelqu'un peut parler des mutineries, c'est quand même André Loez qui a consacré sa thèse à cet événement, à ces méga événements. Il va nous en parler, montrer. Quand je dis méga, c'est-à-dire qu'il concerne un très grand nombre de personnes sur un terrain assez vaste. Sa thèse dont il a tiré un livre qui est sur la table ici, qui s'appelle donc 14-18, les refus de guerre, et donc qui est celui qui aujourd'hui a la connaissance la plus à jour, la plus précise et la plus, je dirais, synthétique, parce que la grande force de son travail, c'est pas seulement d'être entré dans le détail de chaque mutinerie, d'avoir fait un travail de recherche minutieuse, mais c'est d'avoir véritablement pensé de manière ambitieuse et cohérente cet événement pour essayer d'en rendre compte de la manière la plus complète possible. Donc je lui laisse tout de suite la parole pour nous parler de cet événement.
Merci beaucoup Philippe et merci aux organisateurs et aux marcheurs et marcheuses et à ceux et celles qui sont là. Je signale au passage que ce livre est issu de ma thèse, mais que cette thèse maintenant elle est en ligne, en libre accès pour ceux et celles que ça intéresse. Elle se trouve facilement en tapant dans un moteur de recherche. On peut la télécharger et la consulter. Alors, la conférence de ce soir, je crois qu'elle s'intitule sur le programme « Une révolte improbable » parce qu'il m'a semblé intéressant, et ça a été confirmé en marchant avec vous aujourd'hui, il m'a semblé intéressant de montrer à quel point c'est pas facile de se mutiner en 1917. Et je pense que quand on marche dans ces régions où étaient les soldats à l'époque, on en fait très concrètement l'expérience, je vais y revenir. C'est aussi un moment et un lieu intéressant pour réfléchir aux mutineries, un moment intéressant puisqu'on est... Trois jours après le discours du président à Cernan-l'Aunois, qui a pour la première fois évoqué les mutineries. C'est la première fois qu'un chef de l'État évoque directement les mutineries, prononce même le mot mutinerie dans un discours. Donc, en relisant là, en préparant son discours, on peut trouver qu'il ne va pas assez loin. On peut trouver que ça reste très lisse comme évocation, hein, parce qu'on retombe sur un discours dans lequel il est dit que les mutins aimaient leur patrie, que c'était des hommes faillibles. Hein, l'idée que la mutinerie, après tout, c'est une défaillance. Voilà. Alors on peut voir les choses autrement. Mais malgré tout, c'était quand même significatif. On était quelques-uns au plateau de Californie au moment où la chanson de Craon a été qu'on chante hein, ensemble. On a chanté tout à l'heure encore. Au moment où la chanson de Craon a été chantée devant les hautes autorités de la République, c'est pas rien quand même. Hein, c'est quand même le signe que là, quelque chose se passe, qu'on peut parler de ces sujets peut-être plus sereinement qu'à une époque, qu'on peut partager un petit peu plus cette mémoire. Donc je trouve que c'est un moment intéressant pour y réfléchir. C'est aussi un moment pour certains où on parle de réhabilitation. Peut-être qu'on en reparlera dans la discussion, parce que je vais essayer de vraiment pas parler trop longtemps et qu'on ait un maximum de temps d'échange. Pour moi, c'est pas du tout un sujet majeur, l'idée de réhabilitation. Le vrai enjeu pour moi, c'est plutôt un enjeu de découverte des mutineries, pour ceux qui ne les connaîtraient pas parfaitement, de découvrir pourquoi. C'est un événement qui me paraît, encore une fois, très compliqué, rare, difficile. C'est pas simple de contester la guerre, et c'est pas simple de contester la guerre en 14-18. Et d'une certaine manière, cette question, on ne la pose pas toujours, ou quand on la pose, c'est parfois de manière inversée. Moi, il m'arrivait souvent d'enseigner la Grande Guerre à des lycéens, et puis parfois, j'avais des réactions disant « Moi, je n'y serais pas allé. Moi, monsieur, j'aurais déserté. Moi, j'aurais refusé. Je me serais mutiné. » On s'identifiait aux mutins, tout comme on pourrait s'identifier à d'autres figures de rebelles dans l'histoire. On voit bien comment ça marche. Mais en réalité, quand on a ces réactions, on ne se rend pas compte à quel point c'est difficile. De la même manière dans l'historiographie, certains historiens disent, après tout, les mutineries, c'est pas grand-chose, c'est très peu de gens, c'est très minime. Et le vrai enjeu, c'est pourquoi il y a aussi peu de gens qui se sont mutinés, finalement. C'est ça finalement, l'important. C'est qu'il y a très peu de gens qui l'ont fait. Donc, on passe là-dessus, c'est pas significatif. Très peu de gens l'ont fait. Passé, il n'y a rien à voir. Mais il me semble que c'est un argument qui va trop vite, qui est trop rapide, que c'est pas parce qu'il y a peu de gens qui sont mutinés. On sait effectivement que les mutins n'étaient pas la masse de l'armée française. À l'époque, il y a à peu près 1 300 000 fantassins sur le front. Bon, il est évident qu'il n'y a pas 1 300 000 mutins. Ils sont peut-être 20, 30, 40, 50 000. Ça dépend comment on les définit et on ne pourra jamais les compter avec certitude. Mais de toute façon, c'est clair qu'ils sont une minorité. Mais est-ce que pour autant, cette minorité, elle est non significative? Est-ce que ça ne veut rien dire sur la guerre? Est-ce que ça ne veut rien dire sur ces hommes? Je pense que non, vous l'imaginez. Sinon, je ne les aurais pas étudiés. Et je vais essayer de développer un petit peu et de montrer pourquoi, bien que minoritaire, ces actes nous disent quelque chose. Ils nous disent toute la difficulté qu'il y a à désobéir en temps de guerre. Parce que, encore une fois, une mutinerie, ce n'est pas quelque chose qu'on fait facilement. Quand on prend l'histoire militaire, d'ailleurs, depuis l'Antiquité, on trouve des désobéissances, des désertions, mais on n'en trouve pas si souvent. La règle, c'est plutôt la ténacité, la discipline, les armées qui tiennent, les armées qui font en sorte de tenir, y compris dans des conditions épouvantables. On dit souvent que la guerre de 14, c'est la pire des conditions. Il y a aussi d'autres contextes dans l'histoire qui étaient très, très difficiles et où les armées ont tenu. Donc, ça pose des questions, finalement, sur qu'est-ce que c'est que tenir, comment les armées tiennent et comment, à certains moments, justement, des hommes peuvent se révolter, peuvent tenter de briser ce cadre dans lequel ils sont. Le premier point que je voudrais aborder, c'est le début de la guerre. Parce qu'on ne peut pas penser 1917, me semble-t-il, sans revenir à 1914. Pour comprendre ce qui se casse en 1917, pour comprendre pourquoi des hommes se révoltent ou se rebellent ou refusent, quel que soit le terme qu'on emploie, en 1917, il faut revenir au cadre dans lequel on est depuis 1914. Et 1914, c'est quand même un moment très, très particulier, très intense, on le sait, même si ça a été beaucoup réétudié par les historiens, parce qu'aujourd'hui, on ne dit plus. On est parti la fleur au fusil, au front, en pensant que la guerre serait fraîche et joyeuse. Aujourd'hui, on sait que c'était beaucoup plus partagé que ça. Mais malgré tout, c'est quand même un moment très intense dans lequel il est très difficile de refuser. Dès 1914, le refus de guerre, il est très peu pensable. Alors qu'on sait bien qu'avant la guerre, il y avait un certain nombre de gens qui disaient qu'il fallait refuser. Il y avait des pacifistes qui étaient très actifs, à l'extrême gauche en particulier, qui disaient qu'il ne fallait pas porter les armes, qu'il fallait, pour certains, mettre le drapeau dans le fumier. Enfin voilà, il y avait des discours très forts parfois contre la guerre. Bien, en réalité, on sait qu'à la mobilisation, la mobilisation était très efficace. À peu près, on a les chiffres, à peu près 99% des hommes ont rejoint leur régiment. Il y avait 1% d'insoumis à peu près. Et encore, quand on a étudié ça, on s'est rendu compte que les 1%, c'était le plus souvent des gens qui n'avaient pas reçu leur livret militaire ou qui étaient à l'étranger, donc ils ne pouvaient pas rejoindre tout de suite. Bon, donc, ce n'était même pas un taux très significatif. Il y a très peu de refus. Alors, comment le comprendre? Il y a différentes manières, évidemment, d'interpréter ça. Une manière traditionnelle était de dire les gens étaient tous enthousiastes pour la guerre, tous patriotes, ils sont allés joyeusement, etc. Et quand on regarde de près, on se rend compte que les choses sont sans doute plus complexes. Que d'abord, cette mobilisation de 1914, on ne peut pas la comprendre sans voir le cadre dans lequel on est. Le cadre, c'est un État moderne, c'est-à-dire un État qui a scolarisé toute sa population, qui a instauré le service militaire obligatoire, plusieurs fois réformé, et en particulier depuis les années 1890, tout le monde fait son service, 2 ans ou 3 ans suivant les périodes. Il n'y a plus de tirage au sort, il n'y a plus de remplacement, il n'y a plus de manière d'y échapper. Tout le monde fait son service, donc d'une certaine manière, l'obéissance est déjà quelque chose de parfaitement inculqué. Alors, parfaitement, il ne faut pas exagérer. Il y a toujours, évidemment, des formes de réticence, des gens pour qui la caserne se passe mal. Mais malgré tout, la normalité, c'est d'obéir. On l'a appris à l'école, on le poursuit à la caserne. Et finalement, quand la guerre vient en 1914, désobéir n'est pas vraiment un choix, n'est pas vraiment un horizon dans lequel on se dit bon, j'y vais ou j'y vais pas. Je pense que, quand on regarde d'ailleurs les textes de l'époque, en pratique, très peu de gens se posent cette question. L'immense majorité des gens, des jeunes Français qui ont 20 ans, 25 ans en 1914, ne se posent pas la question d'y aller ou de ne pas y aller. C'est une évidence absolue. Tout le monde y va. Encore, on serait en Grande-Bretagne, on pourrait dire, bon, j'y vais pas, il y a du volontariat. De fait, il y a des dizaines de milliers de gens qui vont s'engager volontairement, mais il y en a aussi qui peuvent dire, bon, je préfère pas, j'ai une épouse, j'ai une famille, je veux garder mon emploi, etc. Il y a des gens qui n'iront pas. Mais en France, la question, littéralement, ne se pose pas. Si vous n'êtes pas dans certaines catégories très, très précises, il y a quelques fonctionnaires, quelques cheminots, parce qu'il faut faire marcher les transports, etc., qui sont non mobilisables. Mais en dehors de ça, vous êtes mobilisable, vous êtes mobilisé. la question ne se pose pas, encore une fois. Donc vraiment, je pense qu'il faut partir de là pour comprendre à quel point c'est compliqué de refuser la guerre. Quand la guerre est la situation normale, la situation collective, que tout le monde est embarqué dedans, dans cette espèce d'immense mouvement, il n'y a pas besoin de le vouloir. Il n'y a pas besoin d'être patriote, d'adhérer à je ne sais quel discours. On y va parce que c'est la règle. C'est la règle pour tout le monde. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça d'autant plus qu'il n'y a aucun discours disponible, il n'y a aucun vocabulaire pour contester. Parce que qu'est-ce qu'on dit ? On dit que c'est une guerre défensive. Et à l'époque, tout le monde le pense, et d'ailleurs dans tous les pays, c'est ce que dit la presse, c'est ce que disent les dirigeants. Ensuite, les historiens en discuteront très longtemps, qui a commencé, pourquoi, les Autrichiens, les Russes, les Allemands, qui est responsable. Mais à l'époque, chacun est persuadé que c'est une guerre défensive, donc on est dans son bon droit. Si on avait dit aux Français, on est mobilisé pour une guerre d'offensive, pour reprendre l'Alsace-Lorraine, très probablement il y aurait plus de réticence. À partir du moment où il y a une invasion extérieure, c'est beaucoup plus compliqué, encore une fois, de désobéir. Hein. La désobéissance, la légitimité de la désobéissance, accepter qu'on puisse désobéir, c'est compliqué quand le pays est attaqué. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que si on dit, bon, vous allez faire la guerre, mais vous allez faire la guerre pour aller piller des richesses lointaines. C'est pas du tout la même optique. Bon. Et puis, n'oublions pas que même si on pense pas, vous me dites si c'est trop fort, pas assez fort, trop vite, vous n'hésitez pas. Même si cette guerre, on la voit pas comme une guerre fraîche et joyeuse, on pense qu'elle sera courte. On pense qu'elle sera courte, et donc il faut pas se dire en 1914 pourquoi n'ont-ils pas refusé, sachant qu'il y aurait Verdun et les tranchées. Ils ne le savent pas, évidemment. Hein, ils n'ont pas cette vision-là de la guerre. Cette vision-là de la guerre, elle va progressivement se dévoiler. Et évidemment, les attitudes vont changer. Donc je pense que le moment 1914, hein, ce cadre qui est fixé en 1914, il est très important pour comprendre pourquoi, sur toute la durée de la guerre, finalement, le refus, c'est toujours l'exception. Et ce n'est pas une grande surprise, d'ailleurs. Je ne vous apprends pas que, dans nos sociétés, le refus, c'est l'exception. Il y a toujours plus de gens qui continuent à travailler que de gens qui font la grève. Il y a toujours plus de gens qui acceptent bon gré malgré l'ordre tel qu'il va que de gens qui se dressent et de gens qui militent. C'est comme ça, c'est une réalité, on peut la déplorer, on peut s'en étonner, mais en même temps, il faut bien admettre que c'est comme ça que les sociétés fonctionnent. Elles fonctionnent parce que les gens, bah, finalement, font leurs actes ordinaires dans le cas dans lequel ils sont, sans le remettre en cause à chaque instant. Les gens qui sont des rebelles absolus, finalement, sont très rares. C'est sans doute une donnée sociale dont il faut tenir compte. Alors, maintenant que la guerre a commencé, c'est toujours aussi difficile de désobéir, voire plus difficile de désobéir, de refuser, quelle que soit la raison du refus. Je ne rentre pas d'ailleurs dans le refus. Est-ce qu'il est idéologiquement motivé ? Est-ce qu'on refuse parce qu'on ne veut pas verser le sang d'un autre homme comme soi ? Ou est-ce qu'on refuse parce qu'on veut sauver sa peau, qu'on veut retrouver sa famille ? Il peut y avoir toutes sortes de raisons et on pourra en discuter d'ailleurs. Mais quelles que soient les raisons, désobéir, refuser la guerre. Est-ce que c'est faisable maintenant que la guerre est installée, maintenant qu'on est, mettons, après septembre-octobre 14, on est dans la guerre des tranchées. Est-ce que c'est faisable ? Ben, là aussi, c'est très compliqué. C'est même encore plus compliqué. Encore plus compliqué parce que maintenant, on est en temps de guerre. Et en temps de guerre, vous avez tout l'appareil, toute l'institution militaire qui tient, qui fonctionne, qui encadre les soldats, qui les encadre avec tout un système hiérarchique qu'on connaît, une discipline, un cadre réglementaire, un éventail de punitions dont la peine de mort est le volet le plus extrême, le plus absolu, mais évidemment avec toute une série de gradations. Il ne faut pas imaginer que dès qu'on fait une transgression, on est fusillé, mais on sait que c'est possible, malgré tout. Et on sait que c'est possible parce que dès 14-15, l'armée est fusillée de manière très très intense, sans doute peut-être moins intense que chez les Bulgares ou les Italiens, qui ont été encore plus haut dans la brutalité disciplinaire, mais malgré tout avec beaucoup d'intensité en France. Et aussi beaucoup d'arbitraire. Hein, on connaît tous les histoires d'un certain nombre de fusillés, l'histoire du pantalon, l'histoire de gens fusillés pour des choses presque impensables. Et donc, des soldats qui voudraient désobéir se disent « ça pourrait tomber sur moi ». Si un tel a été fusillé pour une raison vraiment tout à fait triviale, ça peut ne pas arriver, mais ça pourrait aussi tomber sur moi pour une transgression assez minime. Donc, finalement, l'existence des fusillés, l'existence de ce coût très très élevé de la désobéissance, elle tend quand même à assurer la conformité d'une grande partie des gens, même si tout le monde n'est pas tenté de désobéir, mais ceux qui le seraient, peut-être qu'ils ont un petit peu moins tendance à le faire. Donc il y a évidemment cet élément-là. Alors je vais tout de suite tempérer, parce que je ne veux pas passer pour un historien qui dirait que les soldats n'ont marché que parce qu'il y avait la peur du gendarme ou la peur du peloton d'exécution. Ce n'est pas du tout le cas, évidemment. Les choses sont plus compliquées. Sans même parler de ça, il y a tout simplement les liens sociaux qui font que quand on est à la guerre, désobéir, c'est d'une certaine manière laisser tomber ses camarades, c'est laisser tomber ses proches, c'est exposer sa famille au déshonneur. Si on est puni, Et même si on est puni d'une manière on va dire, modérée, hein, si on reçoit une peine de 15 jours de prison avec sursis, elle est quand même portée, elle est quand même inscrite au casier. Et puis on va l'apprendre au pays. Qu'est-ce qu'on va dire ? Qu'est-ce qu'on va dire du soldat qui a flanché ? Qu'est-ce qu'on va dire de celui qui n'a pas tenu son rang devant ses camarades ? On est dans une société qui valorise quand même. Il faut le rappeler, la société de 1914, elle valorise la virilité, elle valorise le courage masculin, elle valorise des notions d'honneur et de force masculine qui font que si on ne fait pas son devoir, si on n'exerce pas son devoir sous l'uniforme, on peut être considéré comme un lâche, comme quelqu'un qui ne tient pas sa place. Et donc aucun soldat n'a envie de vivre ça, de vivre cette expérience. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, en Grande-Bretagne, c'est avec une des raisons pour laquelle tant de Britanniques se sont engagés dans l'armée alors qu'ils n'étaient pas obligés, il n'y avait pas de conscription en 1916, pourquoi ils se sont engagés ? Parce que pour beaucoup, c'était insupportable d'avoir le regard des femmes porté sur eux en tant que civils, non engagés, alors que beaucoup d'autres étaient partis, et donc ils se sentaient vraiment atteints dans leur identité d'homme, parce qu'ils ne faisaient pas leur job, ils ne faisaient pas leur devoir. Voilà. Et ça, c'est une pression sociale qui existe indépendamment évidemment de tout le système disciplinaire. Je mentionne ici une citation d'un officier pendant les mutineries qui dit « Voilà ce qu'on dit aux soldats pour les ramener dans le devoir ». Voilà ce que disent les officiers pour ramener les hommes dans le devoir. Ils ne parlent pas de patrie, mais s'adressant à l'homme plutôt qu'au soldat, en un tableau rapidement brossé, ils montrent le désespoir et le déshonneur des familles si jamais survenait le pire. Autrement dit, si vous désobéissez, si vous êtes condamné, désespoir et déshonneur des familles. Ça aussi, ça compte. Hein, ça compte. On a peur pour soi parfois parce qu'on se dit « je vais être puni », mais aussi, on a tout un cadre social qui fait que transgresser la règle militaire, c'est tout sauf simple. C'est tout sauf simple en 14-18. Et du coup, on dit souvent, et on pose souvent la question, les soldats de 14, comment ont-ils tenu ? Hein, c'est la grande question, Philippe. C'est bien des historiens qui toujours répètent « comment ont-ils tenu ? Comment ont-ils tenu ?» Mais en fait, on pourrait renverser cette question. On pourrait dire « c'est pas eux qui ont tenu. Ils ont été tenus. » Ils sont tenus, et ils sont tenus par toute une série de liens sociaux extrêmement forts. Les liens entre soldats, les liens, on pourrait dire, horizontaux au sein des escouades, au sein des compagnies, qui font qu'on tient parce qu'on ne veut pas laisser tomber les camarades, parce que déserter, refuser, c'est d'une certaine manière sortir du groupe, et ce n'est pas du tout simple à assumer. Il y a ces liens verticaux dont j'ai parlé avec la hiérarchie, avec les lieutenants, les capitaines, les colonels, qui surveillent, mais aussi qui encadrent, et aussi qui encouragent, et aussi qui réconfortent, et qui disent « bon, allez, encore un coup, les gars, il faut quand même attaquer, parce qu'il faut libérer le pays, etc. » Parce que imaginez que tous les officiers sont des brutes galonnées, tels que les décrit Louis Barthès dans ses carnets. Il y a aussi toute une série d'officiers qui essayent de faire en sorte que ça tienne justement, que leurs soldats soient bien traités, qu'ils aient du courage pour les coups très durs qu'ils vont vivre. Et eux-mêmes n'ont pas toujours le choix, évidemment. Et puis ces liens aussi avec l'arrière, hein, avec les lettres de l'épouse, les lettres des parents qui disent « ne t'expose pas trop, mais fais ton devoir ». Hein, parce que, encore une fois, ne pas le faire, c'est très difficilement concevable dans ces sociétés de 14-18. Dernière chose, il y a peu d'alternatives. Où pourrait aller un soldat désobéissant en 14-18 ? Où est-ce qu'on peut aller ? On peut essayer de rentrer chez soi au cours d'une permission. Il y en a plein qui le font, d'ailleurs. Hein, bon, ils sont recherchés en tant que déserteurs, et au bout d'un moment, ils vont retourner au front, ou s'ils y retournent pas, les gendarmes vont passer, vont aller visiter la ferme, vont aller fouiller un petit peu pour voir si c'est caché là. Alors, il y aurait bien des solutions extrêmes, partir à l'étranger. On sait qu'il y a, par exemple, un peu plus de désertion, notamment le long de la frontière pyrénéenne, le long des frontières alpines vers la Suisse. Bon, il y a un petit peu plus de désertion, mais ce n'est pas massif, parce que malgré tout, partir à l'étranger, ça veut dire vraiment refaire sa vie, abandonner, on est condamné par contumace, et puis on abandonne tout ce qui fait son existence sociale. C'est tout sauf simple. Donc en fait, il n'y a pas grand lieu où aller, il n'y a pas beaucoup de possibilités offertes aux soldats de 14-18, si ce n'est que de continuer la guerre, d'espérer qu'elle se termine, d'espérer que la prochaine offensive sera la dernière et que comme ça, on pourra rentrer chez soi. Là, je parle du point de vue, hein, vous me comprenez, du soldat, on imagine le soldat non motivé. Hein. Il y a des soldats qui sont très motivés, ça existe aussi. Des soldats qui disent, voilà, cette guerre, elle est justifiée, il faut reprendre la place, il faut vaincre le militarisme Bosch, etc. Il y a aussi des soldats qui sont peu motivés, mais pour ces soldats peu motivés, finalement, il n'y a pas beaucoup d'alternatives pensables, me semble-t-il, avant 1917, il n'y a pas beaucoup de choix qui sont ouverts, si ce n'est que la continuation de la guerre et en essayant de trouver un échappatoire, un filon, une bonne blessure, une affectation tranquille. Tiens, il y a une formation de télégraphiste, je vais aller passer 2 mois dans un camp d'instruction, je vais être loin des tranchées, ça c'est bien. Voilà. Mais en dehors de ces petits échappatoires, il y a quand même peu d'issues qui sont offertes à ces soldats, et en tout cas la désobéissance collective n'en est pas vraiment une. Comment organiser un mouvement de désobéissance au front ? Et ça, c'est ce que je voudrais montrer dans un deuxième temps, en arrivant justement au moment des mutineries. Le moment des mutineries, il est intéressant parce que c'est là la première fois que, dans l'armée française en tout cas, la première fois que quelque chose se passe, qu'un mouvement a lieu. Alors un mouvement, c'est compliqué d'ailleurs, parce qu'un mouvement, ça impliquerait que tout est relié. Et en fait, ce mouvement des mutineries, vous le voyez très bien pour ceux qui font cette marche depuis le début, c'est très éclaté, c'est très disparate. C'est pas un seul mouvement qui prend, c'est une multitude de petits événements qui se coagulent plus ou moins, qui se relient plus ou moins. On apprend qu'il s'est passé quelque chose. Un régiment arrive dans un village, et puis il va acheter du vin, les gars vont acheter du vin. Et puis le tenancier du débit de boisson leur dit, bon, bah, vous savez, ici, il y a 4 jours, il y avait les gars du 313e, ils ont fait un sacré raffut. Il y en a même qui avaient le drapeau rouge. Et, ah bon ? Si on faisait pareil. Et donc, en fait, c'est tous ces événements qui vont se répondre les uns aux autres, qui vont se coaguler un petit peu, mais très peu, en fait, parce que très souvent, ils restent isolés les uns des autres. En tout cas, quelque chose se passe, quelque chose de nouveau. Ce n'est pas absolument nouveau qu'il y ait des désobéissances. Il y avait déjà eu des refus d'attaquer, des refus de sortir, des refus de monter aux tranchées ponctuellement en 1914, 1915, 1916. Ça restait très ponctuel. Là, ce qui est quand même nouveau, à mon sens, c'est 2 choses. C'est, ou peut-être 3 choses. D'abord, le côté quand même plus massif. Hein, j'ai dit tout à l'heure des dizaines de milliers, on ne sait pas exactement combien, mais en tout cas, on est dans cet ordre de grandeur. C'est beaucoup plus massif. Deuxièmement, des protestations ouvertes. C'est plus seulement on déserte, on essaie de ne pas y aller, on refuse, mais on manifeste, on crie, on revendique. Et puis justement, c'est la 3e chose, une prise de parole. On fait entendre quelque chose. On fait entendre un discours qui désormais est opposé à la guerre, avec toutes les teintes possibles et imaginables, du plus minimal, c'est-à-dire... putain, il y en a marre de cette guerre, jusqu'au plus élaboré, c'est-à-dire cette guerre est une guerre des capitalistes qui font tuer le petit peuple, etc., des gens qui ont une lecture très politique, ou encore cette guerre est indigne en tant que citoyen, nous ne pouvons pas l'accepter. Marianne, que fais-tu de tes enfants? Il y a même un mutin qui écrit ça sur un de ses graffitis. Bon, donc, prise de parole, caractère plus massif, protestation ouverte, il y a vraiment quelque chose qui se passe qui est tout à fait nouveau. En mai-juin 17, au passage, là, on est plus dans le centenaire du chemin des dames, mais les mutineries, c'est plutôt un mois après. Hein, c'est plutôt à partir du 15 mai que les choses vraiment s'intensifient. Vous le voyez sur le calendrier de la marche que j'ai vu tout à l'heure. Hein, on est fin mai, début juin. C'est vraiment là que se passe l'essentiel des mutineries les plus intenses. Bon. Alors, cette désobéissance devient pensable. Et à mon sens, elle devient pensable principalement parce que d'autres l'ont déjà fait. Et ça, je pense que beaucoup, on en a déjà fait l'expérience dans notre vie, peut-être pas courante, mais quand il y a des choix à prendre, c'est souvent plus facile de choisir quelque chose lorsqu'on a des exemples. Hein. Est-ce que je fais grève? Bon, bah, est-ce que je vois que 80% de mes collègues le font? Oui, d'accord, je vais rejoindre. Si je suis tout seul, je ne suis pas sûr de franchir le pas. Donc là, il me semble qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui se produit au moment des mutineries. On apprend que d'autres régiments sont mutinés, on apprend que quelque chose se passe, et du coup, ça facilite le passage à l'acte, ce qui était très très dur à penser, à concevoir auparavant. Bien là, ce passage à l'acte, il va être facilité parce que quelque chose se produit, parce qu'il y a un début de généralisation, parce que des gens commencent à le faire. Souvent d'ailleurs, les soldats qui se mutinent le font en imaginant que c'est pire ailleurs. Ils disent « Il paraît qu'au 212e, ils ont pendu leur colonel. » Alors nous, on va manifester, mais sous-entendu, comme on est modéré, nous, on ne va faire que manifester. Autrement dit, on imagine des choses terribles qui se passent ailleurs. Comme ça, bah, ça désinhibe un petit peu le passage à l'acte qu'on peut avoir soi-même. Ce passage à l'acte, il reste quand même très, très difficile. Très difficile pourquoi ? Encore une fois, on est loin du cadre normal d'un mouvement social. Le cadre normal, c'est par exemple une entreprise ou un quartier d'une grande ville. Hein, si on pense aux grandes journées révolutionnaires de 1848, de 1871, voilà, on est dans des lieux relativement proches dans lesquels il y a une masse de gens qui se connaissent, qui sont prêts à passer à l'action ensemble, qui ont parfois milité ensemble, etc. Là, rien de tel. Le cadre des mutineries, c'est le plus improbable qui soit pour mener un mouvement. Pourquoi ? Un, vous êtes dans une armée en guerre. Donc déjà, tout le code, toute la réglementation s'oppose littéralement à ce qu'on puisse désobéir, militer, protester. C'est parfaitement transgressif. Donc vous n'êtes pas censé le faire. Deux, vous êtes dans une armée en guerre avec des gens que vous ne connaissez pas toujours, puisqu'on dit toujours la grande camaraderie du front. Mais en pratique, il y a des soldats qui ont des copains, et il y a aussi des gens qui leur sont indifférents, il y a aussi des gens qui leur sont inconnus. Quand vous êtes dans une compagnie de 150 personnes, avec en plus des arrivées, des départs, des transferts, des blessés qui sont évacués, puis d'autres qui arrivent, qui sont transférés d'autres régiments, c'est un brassage permanent, on ne connaît pas tout le monde, et on ne sait pas sur qui on peut compter, et on ne sait pas lesquels, finalement, ont les mêmes envies, les mêmes capacités d'action. Ces gens sont des urbains et des ruraux. Lorsque ce sont des ruraux, pour beaucoup, pas tous, mais pour beaucoup, ils ont peut-être un peu moins d'expérience du mouvement social de la protestation. Alors on sait qu'avant la guerre, il y a quand même eu des grands mouvements en Champagne en 1911, le mouvement des viticulteurs du Sud en 1907. Donc il y a eu des mouvements sociaux dans les campagnes. Mais ça ne concerne pas tout le monde. Il y a aussi toute une masse de gens dans les campagnes qui ont très peu d'expérience de la grève, de la protestation, qui n'ont pas cette culture protestataire qui a quand même beaucoup plus dans les grandes villes, où là, il y a des populations qui ont été beaucoup plus confrontées à la manifestation, à la protestation, au refus, une culture du refus. Ça ne s'improvise pas complètement. Donc, c'est très disparate. Hein. Comment lancer un mouvement lorsque, bah, en pratique, vous ne savez pas forcément sur qui compter, vous n'avez pas forcément vos copains avec vous, vos militants avec vous, hein, bien entraînés, bien préparés. C'est peut-être pas si simple. Après ça, on est aussi dans une incertitude du quotidien. On ne sait pas toujours le matin où est-ce qu'on va dormir le soir, à la différence de cette marche très bien organisée. On part le matin, on ne sait pas où on est amené, on ne sait pas si le soir, le lendemain, on va monter au front ou pas, si on va avoir un repos. C'est d'ailleurs un des trucs du commandement souvent pour maintenir un peu les hommes sous pression, c'est de ne pas leur dire où on va et d'attendre le dernier moment pour révéler les informations, parce que si on dit trop tôt, bon, bah, dans 4 jours, on monte au chemin des dames, bah, là, ça va fermenter, et du coup, peut-être que quelque chose va se passer. Donc souvent, c'est au dernier moment qu'on informe les soldats de l'endroit où ils vont, mais aussi. Du coup, ça limite les possibilités d'action. Hein, si vous ne savez pas où vous allez, où vous êtes, qui vous allez voir, avec quelle compagnie ou quel régiment vous allez monter, il me semble que c'est peut-être plus difficile d'agir. Une autre chose qui est importante, aucun accès, évidemment, à un quelconque matériel militant. On voit très bien qu'aujourd'hui, dès qu'on organise quelque chose, hein, on imprime des petits carnets, tout le monde ne connaît pas les paroles, on les a sous les yeux, on peut les imprimer, on peut les avoir. Et à l'époque déjà, dans n'importe quel mouvement social, manifestation, on peut imprimer des tracts, on peut imprimer des affiches, on peut imprimer des pétitions, on peut faire circuler ça, des chants, etc. Là, on est dans le dénuement matériel le plus total. Dénuement matériel, et j'en donne un exemple concret, c'est la question du drapeau rouge. Pardon. Pendant les mutineries, plusieurs fois, pas en la totalité, mais on va dire dans un quart à peu près des mutineries, on voit des drapeaux rouges. Des témoins disent les mutins ont marché sous le drapeau rouge. Évidemment, c'est très transgressif. L'armée, normalement, on n'a pas le drapeau rouge. Déjà, dans les manifestations avant 14, quand dans un certain nombre de manifestations, il y a le drapeau rouge, c'est mal vécu par les autorités, parfois on les saisit, etc. Donc c'est quand même un enjeu, le drapeau rouge. Mais ce n'est pas un vrai drapeau rouge. Quand on regarde ce qu'on dit dans les archives de ce drapeau rouge, une fois, c'est une chaussette rouge sur un bâton. C'est une ceinture rouge, là encore, sur un bout de bois qu'on a promené. C'est une fleur rouge qu'on a à sa boutonnière. Autrement dit, ce n'est pas un vrai drapeau, c'est juste un truc bricolé parce qu'on est dans les dénuements matériels. On n'a pas évidemment de local syndical, de local militant où on peut entreposer du matos. On est vraiment dans l'improvisation de la désobéissance et ça rend les choses compliquées. Et du coup, ça rend les efforts des mutins qui veulent vraiment se mutiner finalement d'autant plus intenses pour dire comment on va faire dans cette situation un peu de dénuement matériel pour faire les choses. Mouvement aussi dénué de moyens de communication. On sait que c'est très important quand on veut organiser quelque chose, quand on veut lancer quelque chose. Aujourd'hui, le premier réflexe d'un militant qui veut lancer quelque chose, c'est de contacter la presse, c'est d'essayer de faire connaître, c'est d'essayer d'amplifier. Alors en plus, on a des réseaux sociaux aujourd'hui qui permettent de toucher des audiences de plus en plus vastes avec des moyens très, très, très performants. Là, on est quand même dans un isolement complet, sachant en plus que les soldats ont un seul moyen de communication à leur portée, c'est les lettres, mais ces lettres peuvent être contrôlées. Et en particulier en période de mutinerie, elles le seront de manière plus intense. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a certains régiments qui sont vraiment très ciblés parce qu'on se dit, là, il y a quelque chose qui couve, qui fermente, on va ouvrir toutes les lettres. Donc, c'est quand même pas si simple non plus d'essayer d'élargir, de communiquer, de transmettre, de dire, par exemple, d'écrire à des députés. On sait que le député Brison, c'est un député d'extrême-gauche, il a refusé de voter les crédits de guerre. On va lui écrire pour dire, est-ce qu'on peut avoir un coup de main? Est-ce que vous pouvez nous aider à nous mutiner, etc. Ouais, mais comment lui écrire si la lettre est ouverte? Donc, c'est quand même des choses qui montrent, encore une fois, un peu ce dénuement matériel qui rend la désobéissance plus compliqué. Le point clé, et ce point clé, j'en parlais tout à l'heure avec Philippe, je pense que là, on en prend conscience quand on fait cette marche. Et moi, j'ai pu faire qu'un petit bout aujourd'hui avec vous en passant. Je crois qu'on était à Coulonges, c'est à Coulonges qu'on était rejoint tout à l'heure, à Coulonges, où il y avait le dépôt divisionnaire de la 69e division et où les choses, vers le 22-23 mai 17, ont commencé aussi à entrer en effervescence. On se rend compte qu'on est dans le monde rural. Et qu'on est dans un monde rural dans lequel les gens sont dispersés. Alors évidemment, c'est plus dense qu'aujourd'hui. Hein. Il y a quand même des centaines de milliers de soldats dans cette zone parce qu'on est dans un lendemain d'offensive avec des opérations conséquentes. Donc il ne faut pas imaginer la campagne telle qu'elle est aujourd'hui. Il faut imaginer qu'il y a des voies de chemin de fer, des dépôts de matériel militaire, des baraquements, des piles d'obus, etc. Donc on est dans un paysage qui est un petit peu différent quand même, qui est beaucoup plus dense, on croise plus de monde. On ne peut pas faire comme on a fait une marche de 2 heures sans croiser en croisant une voie toiture et deux gars qui ramassent du bois. Là, on aurait croisé une centaine de militaires différents en train de faire des choses diverses et variées. Mais malgré tout, on est dans un isolement les uns par rapport aux autres. Avant de faire en sorte d'arriver à réunir 1000 ou 2000 gars pour manifester à Balaguer, ben il faut faire 2, 3, 4, 5 kilomètres pour aller dans les différentes fermes où ils sont dispersés, pour aller les récupérer, pour aller leur dire « Allez, venez avec nous, on se mutine, on fait un, enfin, on dirait pas ça à l'époque, c'est pas le verbe qu'ils utilisent, mais on fait quelque chose, etc. » C'est très compliqué, concrètement, ça prend du temps. Les mutins de la 5e division, vous l'avez déjà fait la 5e DI ? On avait parlé. Bon, la 5e DI, c'est un peu l'une des grandes mutineries, l'une des plus intenses qui dure sur 3 jours, 28, 29, 30 mai. Voilà, c'est autour de Soissons. Les hommes de la 5e DI sont dispersés sur 50 km². Et d'ouest en est, pour rejoindre les différents lieux de cantonnement, j'ai ça ici sous les yeux, entre les cantonnements du 129e régiment et ceux du 74e et ceux du 36e, il y a 15 km à faire. Bon, 15 km à faire, ça ne se fait pas comme ça. Et donc, pour arriver à faire en sorte que cette mutinerie prenne, il y a beaucoup d'efforts à mener. Et c'est évidemment très, très différent de lorsque vous organisez le 1er mai dans les quartiers ouvriers d'une grande ville, hein, où là, évidemment, la mobilisation, elle peut prendre, parce qu'il y a un effet de masse, il y a un seuil qui permet de passer à l'action beaucoup plus vite. Donc ça, pour moi, c'est vraiment l'élément clé dont on se rend compte d'autant plus en venant un peu dans ces pas des mutins. Organiser un mouvement social dans le cadre rural, lorsque les hommes sont dispersés les uns des autres, c'est très, très compliqué à faire. Et du coup, ça ne va pas de soi. Et les mutins ne l'ont réussi qu'imparfaitement. Même si un de leurs grands efforts, c'est justement de relier les points les uns aux autres, de passer de cantonnement en cantonnement, de dire « Allez les gars du 36e, le 129e à Désobie, venez avec nous ». Et là, vraiment, comme on voit dans les grèves dans le civil, c'est-à-dire que, par exemple, dans le pays minier, hein, on va de puits en puits pour débaucher les mineurs les uns après les autres en disant ben « Voilà, le puits numéro 5 est en grève, est-ce que le 6 va basculer aussi ?» Ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on voit dans les mouvements sociaux. Ben là, on le fait aussi, mais simplement dans un espace qui est beaucoup plus vaste, qui est beaucoup plus difficile à traverser, à maîtriser, encore une fois, sans aucun moyen de communication très, très efficace pour le faire. Et du coup, dans ce contexte, eh bien, il faut bricoler. Il faut résoudre des problèmes pratiques, il faut essayer d'organiser les choses. Et donc, il y a un certain nombre d'individus qui vont essayer de mettre en forme les mutineries. L'armée les appelle des meneurs, parce que pour les militaires, il est impossible que des gens collectivement décident quelque chose. Il faut forcément qu'il y ait des meneurs qui manipulent la masse et donc qui tirent les ficelles. Alors, est-ce que ce sont vraiment des meneurs ? C'est plutôt des gens qui, sans doute, peuvent être des porte-parole, peuvent avoir une capacité à organiser, peuvent dire, bon bah, voilà comment il faut faire, voilà, j'ai rédigé une pétition, voilà comment il faudrait faire. Et donc, ils essayent de donner une forme, de trouver une forme à quelque chose qui est sans forme au départ, parce que très, très compliqué à mener. Et donc, on bricole des tracts, on bricole des drapeaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, on bricole aussi des formes d'organisation. Certains disent, on va élire des délégués. Louis Barthas, dans ses carnets, raconte qu'il aurait été élu, peut-être délégué de son régiment. On n'est pas sûr, vraiment, il a pas vraiment accepté parce qu'il ne voulait pas se mettre en avant, il avait peur d'être fusillé lui aussi. Bon. Donc, on essaie de bricoler des formes pour justement faire exister un événement qui est très, très, très difficile à mener sans cela. Pardon. Un des paradoxes d'ailleurs des mutineries, c'est que on pourrait penser que les mutineries, c'est un truc vraiment antimilitariste. On est à l'armée, on transgresse tous les codes. Mais en fait, paradoxalement, parce que justement il faut arriver à organiser tout ça, une des manières que les mutins trouvent, c'est de réutiliser les codes de l'armée. C'est-à-dire rassemblement au clairon, tambour lorsqu'on marche, on marche par quatre en colonne, etc. Autrement dit, on se mutine, mais on se mutine dans, on pourrait dire, dans l'ordre que l'armée a inculqué, parce que c'est ça finalement qui permet aux mutins d'être efficaces. C'est ça qui leur permet de se rassembler, de dire bon, on ne va pas tous partir dans les champs à droite et à gauche, on va marcher par quatre, comme on a appris, et du coup, c'est ça qui va faire qu'on sera plus nombreux, plus cohérents. Donc, parfois, ils réutilisent même les techniques militaires afin de se mutiner contre l'armée elle-même, hein, dans un joli paradoxe. Alors, pour finir, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, durant l'événement lui-même, évidemment, on va retomber sur les difficultés dont je parlais tout à l'heure, on va retomber sur toute la difficulté de désobéir dans une armée en guerre, parce que l'institution militaire va réagir. D'abord, évidemment, les officiers sont pris de court, sont stupéfaits, voire ultra choqués. Il y a même des colonels, on a deux exemples de colonels qui pleurent en voyant le drapeau rouge, parce que pour eux, c'est vraiment une atteinte à leurs valeurs. Le drapeau du régiment, c'est un truc presque sacré. Il y a toutes sortes d'histoires à l'époque dans la presse, les récits militaires, d'histoires édifiantes sur celui qui allait relever le drapeau qui était tombé, celui qui a pris le drapeau à l'ennemi, etc. Le drapeau, c'est pour les militaires un truc qui a une valeur très très forte. Et donc, quand ils voient le drapeau rouge à l'armée, c'est vraiment une transgression, c'est presque impensable pour eux. Donc, on a des colonels qui pleurent en voyant le drapeau rouge, qui disent mon pauvre régiment sous le drapeau rouge, bon, vraiment, les choses se passent très mal. Mais, passé un petit peu le moment de stupeur, on arrive à remettre de l'ordre dans tout ça. On arrive à remettre de l'ordre d'abord parce que on a un certain nombre de moyens de coercition. On dit généralement, c'est les mutins qui, d'eux-mêmes, ont compris leurs erreurs, sont revenus à l'obéissance. Bon, ils l'ont fait pour certains, et puis pour d'autres, ils ont été quand même un petit peu amenés, un petit peu forcés. Je vous lis un court passage d'un texte qui explique. C'est un texte d'un soldat de la cavalerie qui explique comment ça se passe durant les mutineries. Voilà un cavalier qui dit: nous encerclons les cantonnements des troupes insoumises. Nous nous tenons prêts à intervenir en cas de tumulte. On espère les avoir par la fin. Voilà. Donc il y a des soldats mutinés. Il y a la cavalerie qui est disposée autour, et puis on attend que ça se passe. Et d'une certaine manière, c'est la meilleure solution, et ça d'ailleurs tous les profs le savent, lorsqu'il y a un problème à régler, on temporise, et le temps finit généralement par faire baisser les tensions et par permettre de résoudre l'événement de manière un petit peu plus calme. Et donc la temporisation permet généralement de dire, bon voilà, où est-ce que vous voulez aller de toute façon, hein? Vous êtes à Coulonges, ok, vous pouvez aller à Ronchères, très bien, c'est 5 km plus loin, et ensuite où est-ce qu'on va? Et donc finalement, la maîtrise du temps par l'autorité militaire va faire que les choses vont se déliter, que parmi les mutins, évidemment, les plus engagés, les plus ardents vont vouloir continuer, et que d'autres disent, peut-être qu'on fait une bêtise, peut-être qu'il serait temps encore de revenir à l'obéissance. Alors pourquoi ils disent cela? Parce que, précisément, leur chef leur parle, leur chef négocie avec eux, parlemente avec eux, leur disent par exemple que si vous ne montez pas, vous commettez une lâcheté, vous allez faire fusiller l'un d'entre vous que vous aimez sûrement. Bon, ben on rappelle évidemment que c'est risqué tout ça, et que si on continue, si on s'arrête maintenant, on pourra fermer les yeux, mais si on continue, les choses vont prendre un tour plus grave, etc. Donc finalement, tout ce travail de temporisation, de négociation des officiers qui sont forcés, on passait tout à l'heure à Coulonges et à Ronchères, c'est un exemple très intéressant, parce que dans cette division, c'est un officier qui s'appelait le lieutenant-colonel Chenelle qui dirigeait le dépôt divisionnaire. Et Chenelle, tous les rapports le décrivent comme étant extrêmement cassant, extrêmement brutal, il déteste le moindre désordre, etc. Mais au moment de la mutinerie, il est bien obligé de négocier, parce qu'il y a trois types qui font irruption avec un couteau dans son logement et qui disent « maintenant on ne veut plus, il faut nous écouter, on a des doléances, etc. » Et du coup, même lui, qui normalement, en temps ordinaire, serait hyper brutal, etc., bah, il temporise, il négocie, il dit « bon, j'accepte de vous écouter, et puis on verra demain, etc. » Et puis évidemment, le temps que ça prend, les choses se délitent, l'autorité a le temps ben justement de faire venir la cavalerie. Alors dans le cas de la 69, je ne crois pas qu'ils se fait venir de cavalier. Mais en tout cas, on a le temps de reprendre les choses en main. On a le temps aussi d'identifier, c'est très important, d'identifier les porte-paroles, les meneurs, ceux qui sont les plus visibles, et éventuellement ensuite de les arrêter discrètement, de les faire passer en conseil de guerre. On fait des efforts pour diviser les mutins, ça c'est fondamental, aussi vieille technique de l'autorité, diviser un mouvement social pour l'empêcher de prendre et de se généraliser. Je lis juste une dernière citation là-dessus. Un adjudant dans un régiment d'artillerie, un des rares régiments d'artillerie qui se mutine, un adjudant qui dit, en pleine mutinerie, « J'ai essayé de ramener les hommes à leur devoir, j'ai dit que ceux qui ont du cœur et veulent monter se mettent à droite, que les autres restent à gauche. Finalement, au bout d'une heure et demie environ, tous les hommes se sont décidés à monter. » Voilà. Donc, il a fallu une heure et demie, mais pendant une heure et demie, il a fait en sorte que ben voilà, les soldats qui connaissaient le mieux, ceux avec qui il arrivait à convaincre, etc., ils se sont mis à droite. Petit à petit, les autres se sont retrouvés de plus en plus isolés. Ils vont finir, bon, ben voilà, nous aussi, on va mettre le sac. De toute façon, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne veux pas être le dernier qui reste, le dernier en plus qui sera arrêté. Donc voilà, on comprend bien comment tout ça finit par se déliter. Donc toutes ces mesures finalement qui passent pas forcément par la violence, vous voyez, il y a de la violence parfois, mais plus généralement on n'a pas besoin de ça, on a simplement besoin de retrouver finalement la normalité dont je parlais tout à l'heure. La mutinerie, elle casse la normalité de la guerre. Eh bien, tout le travail de l'armée et des officiers, c'est de réinstaurer cette normalité, cette évidence de la guerre, qu'il n'y a pas d'autre issue, qu'il n'y a pas d'autre choix, qu'il n'y a pas d'autre solution, qu'il n'y a pas d'autre conduite pensable finalement que de continuer, que de remonter, avec en plus un argument très fort: si vous ne montez pas, vos camarades resteront plus longtemps en première ligne, vous n'allez pas les relever, pensez à eux. Donc là aussi, c'est très dur à assumer, c'est très dur d'assumer, d'assumer la désobéissance en se disant, bah, finalement, en désobéissant, peut-être qu'on laisse tomber des copains, peut-être qu'on laisse tomber des camarades, c'est pas si simple à assumer. Dernier exemple, dans un régiment d'infanterie 359e au mois de juillet, les officiers qui, là aussi, font en sorte de diviser les mutins. On parlemente, on cherche des hommes de bonne volonté pour donner l'exemple et déclencher le départ. Des officiers équipent eux-mêmes leurs soldats et les font filer un à un. Cela en décide d'autres. Donc on a une masse de soldats qui ont décidé de ne pas bouger, qui ne mettent pas leur sac. Les officiers qui vont voir ceux qui connaissent le mieux, ils leur mettent le sac sur le dos, ils les font partir. Et puis ensuite, petit à petit, ça finit par marcher. Donc ça, vraiment typiquement, c'est ce type de situation qui fait que les mutineries finissent par s'arrêter. Et alors, lorsqu'elles s'arrêtent, là, c'est toute une série de mesures de reprise en main où le grand truc de l'armée, c'est d'occuper les soldats, de ne pas leur laisser de temps libre. très souvent, qu'est-ce qui a fait que les mutineries se sont produites ? Parce qu'il y avait une journée de repos, il y avait du temps libre, on a discuté, on a rencontré, comme j'ai dit tout à l'heure, un tenancier, on a des mis de boisson qui a raconté ce qui s'est passé, on a croisé des troupes d'autres régiments qui ont dit « Nous, vous ne savez pas ce qu'on a fait, vous savez ce qu'a fait le 36e, etc. » Et du coup, tout ça a pu se cristalliser. Eh bien, il faut occuper les hommes, pas leur laisser le temps de réfléchir, pas leur laisser le temps de désobéir, de se croiser, etc. Donc, ils sont encadrés. Ils sont occupés en permanence à des travaux, à des corvées, de manière à ne pas leur laisser finalement de repos. Je vous lis une toute dernière citation. C'est un officier qui est également aumônier, qui s'appelle Jean-Julien Weber, à la 168e division. Dès le 30 mai, dans cette division, il n'y aura pas de mutinerie dans cette division. Et on comprend très bien pourquoi. Regardez les mesures qu'il prend. Au dépôt divisionnaire, malgré la bonne tenue de tous, nous redoublâmes de vigilance, patrouillant à l'approche de la nuit pour surprendre des réunions possibles, expulsant sans pitié tout étranger, parlant aux hommes encore plus que de coutume. En somme, une révolte ne pouvait guère se produire chez nous. Et on comprend très bien, finalement, hein, dans une armée qui est tenue en main de cette manière-là, il ne faut pas forcément beaucoup de contraintes physiques, il ne faut pas forcément beaucoup de monde, mais il faut faire en sorte de ne pas laisser de marge de liberté, ou peut-être moins que d'habitude de marge de liberté aux hommes, pour faire en sorte que la révolte devienne impensable, devienne très difficile à mener. Et donc, je m'arrêterai là. Tout ça permet de voir que, aussi bien la guerre que les mutineries, je pense qu'on gagne à comprendre ces événements, non pas sur le mode de l'engagement volontaire, c'est-à-dire d'un côté, on se serait engagé pour la guerre et ensuite on s'engage dans la mutinerie comme si on avait toujours le choix, mais finalement, comme le plus souvent, des situations où on a très peu de choix. On a très peu de choix. Il y a une petite fenêtre de choix qui s'ouvre au lendemain de l'offensive nivelle parce qu'il y a un tel trouble dans la société, dans l'armée, c'est un tel désastre et c'est un tel moment de trouble, d'instabilité générale, parce qu'il y a la révolution en Russie, il y a des grèves, il y a vraiment quelque chose qui se passe et que du coup des choix deviennent pensables et très très vite ces choix se referment et ça redevient très difficile de désobéir. Donc ça rappelle que tout simplement parfois, malgré toute la volonté qu'on a de changer les choses, on est dans des situations qui laissent peu de choix aux gens, et les mutineries à la fois illustrent cette possibilité d'un choix, d'un début de révolte, et en même temps, in fine, l'échec aussi des mutins, parce qu'il faut bien parler d'échec, ils n'ont pas arrêté la guerre, ils n'ont même pas réussi à imposer qu'on parle de l'arrêt de la guerre et qu'on négocie vraiment. Il y a eu des vagues négociations à l'été 17, mais ça n'a pas vraiment abouti. C'est un échec, et c'est un échec pourquoi ? Parce que ce type de situation donne très peu de prise aux gens ordinaires pour essayer de les arrêter, pour essayer des grains de sable dans les rouages de l'histoire. Les mutins ont essayé de l'être et ils l'ont été dans une certaine mesure, mais peut-être pas totalement, ce qui ne doit pas empêcher d'espérer ou ce qui ne doit pas se décourager de travailler. Parfois, il y a des petits grains de sable dans ces mécaniques, mais ça fait comprendre aussi que parfois, bien précisément, un événement comme la Grande Guerre, eh bien, les individus ordinaires ne peuvent pas eux seuls, me semble-t-il, l'arrêter. Voilà. Et je serais ravi de discuter plus avant avec des questions. Merci.
Quand vous avez parlé de mutinerie, à chaque instant, très souvent, vous avez parlé du rouge. Alors, je voudrais savoir si chaque fois qu'il y a une mutinerie, est-ce que ces mutineries sont passées sous pavillon rouge, ou est-ce qu'il y avait ceux qui ont décidé de se mutiner au nom d'une idéologie ou d'un parti ou d'un syndicat, je ne sais pas s'il y avait un syndicat à l'époque chez les militaires, je ne sais pas. Ou alors est-ce qu'il y avait toutes sortes de mutins qui étaient des mutins à la fois qui étaient politisés et d'autres qui ne l'étaient pas du tout et qui en avaient marre tout simplement et qui
Vous sentez bien, c'est une question qui est compliquée. Hein. C'est compliqué d'y répondre parce qu'on n'a pas toutes les données qu'on aimerait voir sur qui sont ces mutins. On le sait pour certains d'entre eux, parce qu'on a des dossiers notamment de ceux qui sont passés en procès. Il y a tous ceux qui n'ont pas été arrêtés, tous ceux pour lesquels on a des témoignages indirects. Alors, je vais essayer quand même de vous répondre parce que c'est vraiment une question importante. Je pense que le rouge, c'est un signe de ralliement pour tout le monde à l'époque. C'est-à-dire, il y a aussi bien des gens qui croient au rouge, parce qu'ils ont, mettons, ils ont grandi avec, ils ont été militants, etc., ils sont politisés, que des gens qui ne sont pas des rouges, mais qui savent que le rouge est un symbole de transgression. Et donc, quand on est en train de refuser, on a recours à ça, tout comme on chante l'international. L'international, c'est intéressant, d'ailleurs, qui ne figure pas dans le petit carnet, les mutins l'ont beaucoup chanté. L'international, c'est le chant des mutins. On ne chante pas la chanson de crâne. On ne la connaît pas à l'époque. Elle n'est pas diffusée, elle n'est pas chantée, elle existe, mais pendant les mutineries, on n'en trouve vraiment pratiquement pas d'exemple. En revanche, on chante beaucoup l'international. Pourquoi ? Pas parce que les mutins sont tous des ouvriers politisés d'extrême gauche, pas du tout. En fait, il y a très très peu d'ouvriers, pour une raison très simple, la plupart des ouvriers sont dans les usines à l'arrière. Voilà. Donc le monde du front, ce n'est pas du tout un monde ouvrier. C'est un monde des paysans, et c'est un monde du petit artisanat, du petit commerce, des petits employés, des domestiques, de petits métiers, de petites gens. Bon. Donc dans ce monde-là, l'international, ce n'est pas forcément très familier. Et donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit très souvent qu'il y a des soldats qui disent « j'ai chanté l'international, mais je chantais que le refrain, parce que je ne connaissais pas le reste ». J'ai chanté quelques paroles que je connaissais. Mais pourquoi ils la chantent ? Ils la chantent parce que même s'ils ne la connaissent pas très bien, ils savent que c'est ça la chanson transgressive. Ils savent que c'est par cette chanson-là qui signifie qu'ils n'obéissent plus, qui signifie qu'il se passe quelque chose. Donc en fait, c'est une semi-politisation. Ce n'est pas politisation au sens où ils sont des militants, mais c'est au sens où ils savent utiliser quelque chose qui est un emblème politique, le rouge, l'international, parce que dans le cadre de l'armée, ils savent que c'est ça qui, évidemment, est le plus transgressif. À ça, il faut ajouter encore autre chose, c'est que dans les mutineries, on ne peut pas généraliser. C'est vraiment un des grands trucs que j'essaie d'expliquer et où je m'oppose parfois à des collègues qui disent « les mutineries, c'est une grève. Voilà. Les mutineries, c'est une révolte. » Non, les mutineries, c'est plein de choses à la fois. Ça dépend en fait des gens. Il y a un certain nombre de soldats qui vivent ça sur un mode purement festif, défoulement. C'est l'occasion de picoler, de se bagarrer, éventuellement de régler compte avec un officier qui a été pénible. Voilà, c'est la mutinerie, c'est l'occasion. C'est un défoulement. On ne voit pas plus loin. Et puis il y en a pour qui il y a une pensée plus construite. Hein, on dit, on se mutine, nous sommes des citoyens, nous avons des droits, la permission n'a pas été accordée, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas parce qu'on est soldat qu'on a abdiqué nos droits, etc. Donc déjà une pensée plus construite. Et puis d'autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ont carrément une pensée vraiment politisée, au sens partisane, engagée, antimilitariste par exemple. Il y en a qui disent vive la sociale, vive l'anarchie. Bon, eux, on peut se dire que pour eux, la mutinerie, c'est évidemment l'occasion de faire remonter à la surface tout un fond politique qu'ils ont caché pendant 3 ans. Parce qu'évidemment, depuis 1914, vive l'anarchie, c'est plus trop le mot d'ordre. Donc, en fait, dans la mutinerie, on va trouver tous ces types de gens, aussi bien ceux pour qui c'est un pur moment de défoulement festif et on boit beaucoup pendant les mutineries, et d'autres pour qui c'est quand même l'occasion de faire entendre des paroles politisées. Et il n'y a pas un type de mutin qui est plus significatif que l'autre. Mais ce qui compte pendant les mutineries, c'est que tous vont agir ensemble le temps d'un moment, parce que tous vont trouver une occasion là de rompre avec justement la routine de la guerre, avec l'évidence de la guerre. Alors il y en a eu, mais il y en a eu plutôt dans la marine allemande, que dans l'armée de terre. On pourrait l'interpréter de différentes manières. Je pense que globalement, dans l'armée allemande, il y avait dès le début de la guerre un peu plus d'attention qui a été apportée au confort des soldats et on va dire aux choses ordinaires qui font qu'on maintient un niveau minimum de confort moral et physique et donc le degré de misère matérielle, si tant est qu'on puisse en juger, est peut-être pas aussi élevé que dans l'armée française. À chaque fois que les Français prennent des tranchées allemandes, ils sont toujours très impressionnés parce qu'ils disent à quel point c'est bien construit, il y a de l'éclairage, c'est renforcé en béton, ils ont moins les pieds dans la boue au quotidien, un petit peu moins les Allemands. Donc il y a ça. Il y a aussi que dans l'armée allemande, il y a des traditions locales un petit peu plus fortes. C'est-à-dire que dans l'armée française, très vite, les gens sont brassés. Au départ, les régiments sont départementaux, régiments de l'An, régiments de Béziers, etc. Très vite, ça se mélange. Dans l'armée allemande, ça reste un peu plus fort. Les Bavarois, les ceux de Württemberg, etc. Et donc, il y a peut-être un esprit de corps un petit peu plus solide qui fait que ça tient. Et puis aussi, les Allemands, ils sont globalement, après Verdun en tout cas, moins à l'offensive. La démarche n'est pas la même. En tout cas, il n'y a pas l'équivalent d'une offensive nivelle pour les Allemands. Qui serait ce même type d'échec. En revanche, il y a des mutineries dans la marine allemande. Dans la marine allemande, où là, vraiment, justement, là, il y a des gens très politisés, parce que les matelots, ils sont recrutés dans les villes portuaires d'Allemagne du Nord, et donc c'est des milieux où il y a vraiment l'extrême gauche est active. Donc on a des mutineries à l'été 17 dans la marine allemande, et surtout fin 1918, parce que c'est les mutineries de la marine allemande qui déclenchent la grande révolution allemande qui contribue à la fin de la guerre. Donc là, il y a vraiment un mouvement très très important qui se passe. Et puis évidemment, il y a les mutineries des Russes pendant la révolution russe et des mutineries italiennes. Donc en fait, le mouvement des mutineries françaises, il intervient à un moment où, dans presque toutes les armées, c'est quand même en train de craquer. Mutinerie très forte en Italie, très violente d'ailleurs, on se tire dessus, chose qui n'existe pas vraiment en France, très peu en France. En Italie, il y a 30 morts parce qu'on se tire dessus entre mutins et officiers. Donc là, il y a encore un autre contexte.
c'est qu'on aborde très peu le problème du rapport entre les hommes de troupe, les sous-officiers et les officiers. Et je dirais que malheureusement, par mon âge, j'ai pu écouter au cours de mon adolescence souvent des récits d'anciens combattants de la guerre 14 et aussi des anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale, même si les choses sont complètement différentes. Et en fait, quand on discute avec des anciens combattants et qu'on les écoute, ils classent finalement les sous-officiers et les officiers en pratiquement deux ou peut-être trois catégories, mais ceux qui respectent et ceux qui ne respectent pas du tout. Et ils ont l'impression, et c'est une réalité à mon avis, que les officiers appartiennent à une caste totalement intouchable. Au fond, et ça, je l'ai vu, un des récits, par exemple, le capitaine qui fait monter sa compagnie en ligne, mais qui reste dans son trou, parce que c'était courant, et souvent, des militaires de carrière, qui envoient un lieutenant appelé monter avec les soldats, ça, les soldats le voient. Et à mon avis, l'armée française, du moins à cette époque-là, qui était l'armée de la République, n'était pas une armée républicaine. Ça, c'est un avis, hein, à moi. Et en fait, les hommes de troupes pour qui la discipline était impitoyable se rendaient compte parfaitement que les officiers, même quand ils ne faisaient pas leur devoir, finalement, ou même lorsqu'ils commettaient des erreurs, jamais il y avait de sanctions prises contre eux. Et ça... dans les événements comme 1917 qui basculent, ça joue énormément dans la réflexion des soldats, qu'eux, en fin de compte, sont des sujets et qu'il y a une caste qui est complètement intouchable, celle des officiers. Je voudrais quand même dire, parce que si on fait des comparaisons historiques, je ne veux pas du tout faire l'éloge de l'armée américaine, mais dans l'armée américaine, par exemple, quand elle est venue en Europe, il y a des officiers qui sont passés en cour martiale pour faute.
Alors sur ce point, je pense qu'il faut nuancer quand même, parce que l'armée de la République, elle est en partie l'armée républicaine. Elle ne l'est pas. Vous avez effectivement, même dans son fonctionnement, elle est en partie, parce que vous avez quand même une très grande partie des officiers de contact, c'est-à-dire des lieutenants, des capitaines. Au-dessus de capitaine, c'est plus rare. Les colonels, c'est presque totalement des militaires de carrière. Mais en dessous de colonel, vous avez une majorité de gens qui sont issus du monde civil, qui sont dans le civil, qui sont des bourgeois, qui sont des avocats, des médecins, des professeurs, comme Marc Bloch, le grand historien, il est capitaine à la fin de la guerre. Donc, oui, mais peut-être tout le monde ne le connaît pas. Donc, vous avez des gens qui sont des civils au départ, pour beaucoup d'entre eux, et qui n'ont pas forcément ce rapport de caste élitiste distant que vous dites. D'abord, qui n'ont pas forcément intérêt à l'avoir, parce qu'ils vivent au contact de leurs hommes, et en étant au contact de leurs hommes, ils ont intérêt à ce que ça se passe bien, et donc ils ont intérêt à instaurer un rapport, pas forcément égalitaire, mais on va dire débonnaire dans certains cas. Ça, Nicolas Mariot le raconte très bien dans son livre qui s'appelle « Tous unis dans la tranchée », que je recommande très, très vivement, un livre qui est paru aux éditions du Seuil, « Tous unis dans la tranchée », avec un point d'interrogation, où il montre qu'à la fois, il y a des rapports de paternalisme et de distance sociale considérables entre les soldats ordinaires et les officiers plus lettrés et issus de la bourgeoisie, et en même temps que certains de ces officiers, justement, ils font toute une série d'efforts pour se rapprocher de leurs hommes, pour faire en sorte de les traiter convenablement. Et on a beaucoup de témoignages aussi qui disent, d'un côté, il y a le capitaine qui s'est terré dans son trou, mais aussi celui qui partait en première ligne avec nous. Il y a aussi celui qui nous trouvait à chaque fois qu'on arrivait dans un nouveau bled, qui nous trouvait de la paille, qui nous trouvait un logement, qui nous trouvait un repas chaud, qui faisait en sorte de bien s'occuper de nous. Donc je pense qu'il y a les deux, et que finalement, quand on compare les armées, en réalité, l'armée française, elle est beaucoup plus démocratique que l'armée anglaise à l'époque, que l'armée allemande à l'époque. Ben, c'est aussi la réalité de l'époque. Donc voilà, pour l'époque, hein, c'est une armée qui est beaucoup moins inégalitaire. Si vous voulez voir des inégalités sociales et de caste chez les Britanniques, c'est très très marqué, hein, parce que là, vraiment la structure sociale britannique avec une haute aristocratie, puis vraiment des working classes qui sont vraiment déconsidérées, c'est beaucoup plus fort qu'en France. En France, c'est moins marqué. Ça existe, ce que vous dites, mais c'est moins marqué. Et moi, je l'ai moins vu dans les mutineries comme motif agissant. C'est de temps en temps, on voit des règlements de compte avec des officiers qui sont considérés comme des lâches, des planqués, des salauds, des brutes galonnées, etc. Mais ce n'est pas du tout, on va dire, la raison première des actions des mutins. C'est même relativement rare. C'est ponctuel, mais ce n'est pas général. Alors en revanche, la vraie distinction qu'il faut faire, c'est entre les officiers de contact et les officiers supérieurs. Parce qu'effectivement, les officiers supérieurs, eux, ils sont très loin de l'univers du troupier, ils sont très loin de son univers mental et physique, et pour eux, il est inacceptable, évidemment, qu'il y ait la moindre transgression. Et en fait, très souvent, durant les mutineries, on voit même des officiers qui plaident pour leurs troupes, qui font des rapports dans lesquels ils disent, bon, ben voilà, il faut les comprendre, ils ont désobéi, mais il faut les comprendre. Donc, on a ça aussi. Le tableau n'est pas aussi tranché que vous le décrivez, selon moi. Ça me paraît vraiment beaucoup, mais je pense pas. Mais la bourgeoisie a en partie payé l'impôt du sang, c'est vrai. Je ne connais pas.
C'est possible. Oui. Et moi, je me pose la question. Je me dis, est-ce que vraiment les mutineries, enfin, l'impact des mutineries n'a servi à rien, quoi. C'est-à-dire que le changement de comportement, justement, des officiers, même supérieurs, et même des politiques, par rapport à ces mutineries-là. Donc je pense, oui, le discours ce soir, on n'a pas beaucoup de temps, il est court, mais je pense que, est-ce que tu peux nous dire aussi un peu l'impact sur le comportement et même sur le système militaire, le fait de, par exemple le système de santé. Je pense que c'est intéressant ce moment-là, et c'est ça, je pense que les problèmes du chemin des dames est intéressant par rapport à la suite, mais de façon générale dans l'organisation militaire.
Bon, c'est une question compliquée. Quel impact ont eu les mutineries ? Parce que, d'un côté, si on part du principe que les mutins voulaient que la guerre s'arrête, ils n'ont pas obtenu. Voilà, ça, il faut partir de là, je pense. Ils n'ont pas obtenu, ils n'ont même pas obtenu qu'on puisse en discuter. C'est-à-dire que, quand on lit, moi, c'est très frappant, quand on lit les carnets de Poincaré, les mémoires, pardon, de Poincaré, on lit volume 9, l'année trouble, 1917, les mémoires du président de la République de l'époque, il raconte les mutineries. Mais il raconte ça vraiment comme une crise qu'il fallait juguler. Une fois qu'il était jugulé, on passait à autre chose. Et il fallait pas du tout se poser de questions sur la conduite de la guerre, sur des négociations à ouvrir, sur la perspective de paix. Ça n'entre même pas dans son esprit que ces gens puissent avoir raison. C'est pas quelque chose qu'il peut envisager une seule seconde. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a très peu de dirigeants qui ont eu une prise de conscience au moment des mutineries que la guerre durait depuis trop longtemps, qu'il fallait sans doute réorienter les choses, etc. Là où il y a eu des formes de prise de conscience, c'est qu'effectivement, si on voulait pas que ça se reproduise, il fallait mieux traiter les soldats. Il fallait améliorer un peu leur ordinaire, il fallait améliorer les conditions des permissions. Alors d'ailleurs, on dit toujours que Pétain était très généreux, il a amélioré les permissions, etc. Bon, on oublie juste une chose, les permissions, c'était un droit. Donc en fait, quand on dit Pétain a réinstauré les permissions, oui, il n'a fait qu'appliquer la loi. En fait, c'est la loi qui n'était pas appliquée avant, et donc lui, il l'a appliquée. Très bien, mais ce n'est pas non plus un exploit si considérable. Mais dans les conditions de l'époque, sans doute, c'était déjà une amélioration importante. Donc effectivement, il y a quelques améliorations matérielles. Alors après, ce qui est vrai, c'est que Pétain, au commandement après mai 17, prend conscience du fait qu'il a une armée qui n'est plus du tout capable d'attaquer comme on l'a fait, et on comprend bien pourquoi. Et du coup, les offensives s'arrêtent. Et elles s'arrêtent tout simplement parce qu'on ne peut plus lancer des opérations comme celle du chemin des dames. Et on lui attribue toujours une phrase qui est « J'attends les Américains et les chars ». On ne sait pas s'il a vraiment dit, on ne sait pas vraiment d'où vient cette phrase. Mais ça correspond quand même à peu près à ce qui se produit, c'est-à-dire une position beaucoup plus attentiste, beaucoup plus économe quand même, en partie, parce que ce n'est quand même pas l'arrêt complet des opérations, mais en partie plus économe du sang des soldats. Donc ça, c'est vrai que ça a une importance. Ça a une importance dans la conduite de la guerre. La guerre, elle a une conduite qui est plus modérée sur le plan tactique dans les mois qui suivent. Et de fait, on parle quand même, alors c'est très, très ambigu d'ailleurs, parce qu'on parle de ces événements, mais on en parle à mots couverts. les mutineries, c'est pas, il n'y a pas un débat public autour des mutineries. Personne n'en parle. Aucun journal ne titre là-dessus. On sait pas que ça, officiellement, on ne sait pas que c'est produit. Mais en fait, on sait que ça s'est produit parce que d'abord, les gens l'ont raconté, les soldats l'ont raconté dans leur famille. Donc, le pays en a pris conscience. Et puis, à l'Assemblée nationale, on en a parlé parce qu'il existait ce qu'on appelait les comités secrets. C'est-à-dire que l'Assemblée devait se réunir pour parler de la guerre, mais il ne fallait pas qu'elle se réunisse et que des espions allemands puissent apprendre ce qui se disait. Donc, on disait qu'on la réunissait à comités secrets. Mais en fait, les comités secrets, ils n'étaient pas secrets très longtemps. Parce que quand vous mettez 577 députés, enfin, je ne sais pas combien ils étaient à l'époque, c'était un peu moins, je crois. Quand vous mettez 500 députés dans une pièce et qu'ils ont chacun des contacts avec les journalistes, avec d'autres parlementaires, très vite, les choses fuitent. Donc, en fait, dans les comités secrets, on a parlé des mutins. Certains députés sont montés à la tribune pour dire il paraît qu'on a fusillé des soldats dans des conditions épouvantables, qu'en est-il, etc. Et de fait, la justice militaire a quand même été beaucoup plus encadrée qu'au début de la guerre. Hein. Ce qui est vrai, c'est qu'au moment des mutineries, il y a à peu près 500 condamnations à mort et, entre guillemets, seulement 26 exécutés. Hein. Donc une proportion quand même très minime, ça ne veut pas dire que c'est rien, mais très minime par rapport au montant des condamnations à mort. Pourquoi ? Parce que le ministre de la Guerre, le président de la République, sont passés derrière et ont commué les peines, et ils l'ont fait sans doute en sentant que s'ils ne le faisaient pas, eh bien, là, ils s'exposaient à un trouble encore plus grand, qu'on ne pouvait pas fusiller comme on avait fusillé en 1914. Et donc là, il y a eu aussi une prise de conscience, mais qui était engagée avant, en fait. C'est-à-dire que les mutineries, elles interviennent à un moment où, justement, depuis 2 ans au moins, on discute de la peine de mort, on discute des conseils de guerre, on a essayé de les réformer. Il y a un député qui s'appelle Paul Meunier qui a mené toute une action pour faire réformer les conseils de guerre, pour faire en sorte qu'il y ait plus de droits pour la défense, etc. Et du coup, les mutineries arrivent à ce moment-là. Donc ce n'est pas à elles seules qu'elles font changer les choses, mais elles font en sorte... Enfin, parce qu'il y a les mutineries, on ne peut pas revenir complètement en arrière. On ne peut pas revenir à 1914-1915 où on fusillait dans des conditions totalement arbitraires des gens par centaines. Là, c'est un petit peu plus encadré par le pouvoir politique qui... Tout le monde a senti quand même qu'on est passé pas loin du point de vue des dirigeants d'une catastrophe complète. Et donc, on change un peu la manière d'encadrer les soldats, on change un peu la manière de mener la guerre, on change un peu la manière de les juger, mais on ne change absolument pas le cadre dans lequel on est, c'est-à-dire la guerre et la guerre jusqu'à la victoire. Ça, ça ne change pas. Tout le reste change un peu, mais ça, ça ne change pas.
Dominique, il y a levé la main.
Dominique, tu veux le micro ? Moi, je suis partisan de mutinerie parce que c'est le mot, c'est l'étiquette la plus courante, on va dire. C'est la plus courante, c'est la plus englobante. Quand on dit les mutineries 1917, on voit en gros de quoi on parle. Bon. Plein de mots, en fait, pourraient marcher. Du côté des militaires, on parle d'indiscipline, de désobéissance, de graves événements. Du côté des mutins eux-mêmes, souvent, c'est beaucoup plus minimal. C'est on a fait du raffut, on a fait du tapage, on a fait du chambard. Donc, en fait, les perceptions de l'événement ne sont pas du tout les mêmes suivant le point où on se place. Hein. Du côté des généraux, c'est une grave indiscipline. Du côté des soldats, c'est on a fait un peu de raffut. Entre les deux, finalement, la mutinerie, pour moi, c'est le terme, on va dire, le plus englobant et le plus neutre. Après, je pense qu'il y a des termes qui ne marchent pas. Par exemple, Denis Roland a intitulé son livre « La grève des tranchées ». Pour moi, ça ne marche pas. Parce que d'abord, une grève, le droit de grève existe quand même dans ce pays. Il n'existe pas pour les militaires. Hein. Et donc là, on est vraiment dans quelque chose. La grève est légale, la mutinerie illégale. Ce n'est pas une grève. Quand on fait une grève, normalement, on fait une grève. Éventuellement, on peut être envoyé, mais on ne risque pas de passer au plateau d'exécution. Donc là, il y a quelque chose qui me semble manquer la dimension très transgressive des mutineries. Et puis, ça supposerait peut-être que les mutins ont un passé ouvrier, qui sont dans le mouvement social, etc. Alors qu'en fait, la plupart viennent du monde rural et sont assez loin, finalement, de cet univers politique et militant et urbain et ouvrier. Donc, la grève, à mon avis, c'est assez trompeur comme terme. Je ne pense pas que ce soit le mieux adapté. Mais on a le droit de l'utiliser, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre ? Révolte. Révolte, c'est compliqué aussi parce que la révolte, ça suggère quand même l'affrontement. Ça suggère quelque chose où on prend les armes. Et de fait, pendant les mutineries, on prend assez peu les armes. On tire parfois des coups de feu en l'air, mais les armes sont présentes, parce qu'évidemment, c'est des soldats, mais elles sont quand même très peu utilisées. Donc, il y a quelque chose... la révolte, ça tirerait l'événement vers quelque chose d'assez... vers la confrontation. Et la confrontation, c'est un aspect de l'événement, mais ce n'est pas le seul, loin de là. Il y a aussi plein de moments qui ne sont pas de confrontation, qui sont de négociation, des discussions, des soldats qui viennent, qui disent « voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on demande, écoutez-nous », etc. Révolte, je trouve que ça tirerait peut-être un peu trop du côté de confrontation armée. À mon avis, ça ne marche pas complètement. Et puis, n'oublions pas aussi une chose, que je n'ai d'ailleurs pas dite moi-même,
des désertions. Les mutineries, c'est un truc collectif, mais c'est aussi un truc individuel. Pendant les mutineries, il y a plein de gens qui en profitent pour déserter, qui voient le chaos un petit peu généralisé, des gens qui manifestent, qui crient à bas la guerre, etc., qui disent, bon, bah, j'en profite. On ne remarquera pas mon absence, hein, vu qu'ils sont 500 en train de manifester devant le logis du lieutenant-colonel. Si je pars maintenant, on ne va pas le remarquer, ils reviennent 2 mois, 3 mois plus tard. Donc en fait, c'est aussi ça les mutineries. C'est aussi plein d'actions individuelles qui participent un peu du même contexte de troubles, de désordre, et où des gens en profitent pour interrompre leur propre guerre. Parce qu'après tout, si on ne peut pas interrompre la guerre, on peut interrompre sa guerre. Et c'est déjà ça pour beaucoup de gens. Donc la mutinerie, ça renvoie à toutes ces pratiques-là. Et je pense qu'on gagne, à mon avis, à avoir le terme le plus général, hein, pour montrer qu'il y a une grande diversité de formes. Mais je ne prétends pas avoir raison, parce qu'il y a sûrement d'autres termes qui seraient...
Je comprends quand tu dis que comme c'est le mot qui s'est imposé, gardons-le. Mais je ne vois pas le degré de généralité entre révolte et mutinerie. Je ne vois pas le degré de confrontation. Une mutinerie dans le vocabulaire...
Oui, c'est normal, vrai. C'est une révolte, c'est quelque chose. C'est vrai. D'ailleurs, la mutinerie, quand on pense aux mutins du Bounty, hein, ouais, c'est même très violent, généralement, une mutinerie navale.
Donc,
ouais.
Il n'y
a pas
beaucoup d'officiers qui ont été tués dans les mutineries.
Alors, ça, c'est effectivement.
Est-ce que c'est pas le mot justement qui a été le plus utilisé pour le pouvoir à ce moment-là? Est-ce que les soldats qui sont révoltés eux-mêmes utilisent ce mot-là?
Non, les soldats qui sont révoltés, très peu disent qu'ils ont fait une mutinerie. Quelques-uns disent qu'ils sont révoltés, quelques-uns disent qu'ils ont fait grève, quelques-uns disent qu'ils ont refusé, qu'ils ont désobéi. Ils disent « on ne veut plus marcher ». Voilà. On ne veut plus marcher. Ça, c'est très minimal en même temps. Hein. Mais alors, on peut aussi dire, mais alors, du coup, là, on retombe plus dans le vocabulaire des historiens, des sociologues. Mouvement social. Moi, ça me va très bien. Si on veut dire le mouvement social 1917, ça me va très bien parce que ça suggère en plus que ces gens qui agissent n'agissent pas purement comme militaires. Ils sont en même temps des militaires, ils sont des maris, des frères, des fils, etc., de gens qui sont dans le monde civil, qui leur écrivent, qui leur disent le pain coûte plus cher, on en manque, etc. Donc c'est aussi un mouvement social appuyé sur tout un contexte qui est évidemment bien plus large. Moi, une des tendances, je trouve, qui est dommageable dans l'historiographie un peu plus ancienne des mutineries, c'était de dire c'est un événement purement militaire. Il y a eu le chemin des dames, les mutineries, des soldats massacrés, des soldats révoltés. Bon. Mais si on fait ça, on les enferme complètement dans la sphère de l'armée, alors qu'en fait, ces mêmes soldats, ils sont aussi des électeurs, enfin, pas en temps de guerre, mais ils le sont, ils sont aussi des civils, ils sont des maris, ils sont des frères, etc. Ils s'informent, ils reçoivent des lettres, ils lisent des journaux. Voilà, c'est pas que des militaires. Évidemment, c'est des militaires, mais c'est pas que des militaires, c'est aussi des gens qui agissent dans un cadre social beaucoup plus large, surtout en France, parce que, précisément, ils sont sur le sol français. Ils s'informent de ce qui se passe dans le pays. Ils lisent les journaux qui leur disent voilà, les femmes sont en grève à Rouen, la poudrerie de Saint-Étienne est fermée parce que c'est le troisième jour de grève, etc. Ça joue aussi, hein, dans la généralisation des mutineries. Toutes les rumeurs qui circulent, évidemment. Il paraît que le gouvernement a fait tirer sur les grévistes. Voilà, énormément de rumeurs qui circulent, bien sûr. Donc voilà. Donc pour te répondre, voilà, mutinerie, c'est le terme le plus habituel. C'est sans doute pas le meilleur, mais à défaut d'alternative, voilà. Je pense qu'on peut continuer à l'employer.
J'ai deux questions. La première, est-ce que Nivelle en a témoigné plus tard? Des mutineries? D'accord, non, mais peu importe, mais même qu'il ait évoqué plus tard, non, il n'y a pas eu. D'accord. Et deuxième question, après 17 jusqu'à la fin de la guerre, est-ce qu'il y a eu des cas un petit peu... Non, ça a été terminé.
Ça a été terminé aussi pour notre... Terminé, alors ça a été terminé pour plusieurs raisons, je pense. D'abord, une fois que les mutineries, la crise elle-même des mutineries était passée, qu'est-ce qu'on avait vu du côté des soldats? Un, que ça n'avait pas marché. Deux, qu'il y avait quand même un certain nombre de gens qui avaient été exécutés ou, variante, qui avaient disparu. Disparu pourquoi? Parce que dans certains régiments, on a pris une centaine de soldats et on les a envoyés aux colonies sans aucun procès, sans aucune procédure normale. On les a envoyés dans des bagnes coloniaux. Ils avaient purement et simplement disparu. Et c'est d'ailleurs probablement de là que viennent toutes les rumeurs ensuite qui ont circulé, disant il y a eu des centaines d'exécutés, des décimations, parce que concrètement, les gens ne voyaient plus leurs camarades, ils n'étaient plus là. Ils avaient en fait été envoyés dans les colonies hors de toute procédure réglementaire, un petit peu comme on avait fait en 1848, en 1871, hein, les déportations politiques ou politico-militaires. Bon, donc là, il y avait ça. Donc, ça ne donnait pas forcément envie de recommencer. Bon. Ensuite, à côté de ça, vous avez, à la fin de l'année 17, un nouveau président du Conseil qui est Clémenceau, qui manifeste une sorte de jusqu'au boutisme guerrier extrêmement fort. Ça ouvre quand même moins de possibilités de contestation. Alors, Il y a les deux. On pourrait dire, bon, bah justement, ça pourrait être l'occasion de se révolter encore plus en masse. En même temps, on venait de le faire, ça n'avait pas abouti. Donc, à mon avis, ça rend les choses plus difficiles. Et surtout, l'année 18, c'est la guerre de mouvement. Et donc, tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur c'est compliqué de se révolter dans une armée en guerre, c'est compliqué parce qu'on est au front, c'est compliqué parce que... Mais quand vous êtes en train de faire 40 km par jour avec un sac parce que vous êtes en retraite, les Allemands attaquent, ou alors vous allez sur leurs talons parce que de mars à novembre, on n'arrête pas de bouger. C'est plus la guerre des tranchées immobiles. De mars à novembre 18, on est en mouvement en permanence. Alors là, pour organiser un mouvement de révolte contre la guerre, ça me paraît encore plus improbable. Donc le contexte s'y prête moins. Et ça, en histoire, je pense que c'est toujours très très important de voir les contextes d'action des gens. Là, le contexte d'action de 1918. Et puis en plus, tous ces mouvements, ça suggère aussi une chose, c'est que la fin est quand même peut-être proche. Parce que qu'est-ce qui s'était passé avec l'offensive Nivelle? On y avait cru. On avait cru que ça allait être la dernière. On y avait cru même très fermement, parce qu'il y avait vraiment un optimisme béat du commandement qui s'était diffusé très largement dans la troupe. Tout le monde en parlait, tout le monde se disait c'est la dernière, cette fois c'est la bonne, maintenant on a de l'artillerie, maintenant on a des chars, ça sera bon. Bon, ça n'a pas été bon. Et donc, il fallait que la guerre s'arrête autrement. Mais en 18, eh bien là, on a les Américains qui arrivent, on a des offensives d'abord allemandes puis françaises. On sent que la fin de la guerre est peut-être pas très loin. Alors est-ce qu'on se mutine alors que la victoire est à portée de main? C'est là aussi, c'est plus compliqué à envisager, je pense.
Oui, non, je pense, pour aller dans le même sens, le contraste à ce moment-là avec l'armée allemande, parce que tu parlais des mutineries dans la marine, c'est vrai qu'il y a des vrais mouvements qui ressemblent à des révoltes organisées de marins dans la marine, mais il y a des formes de mutinerie allemande et qui se répandent comme une traînée de poudre au moment de la débandade finale. Non, mais ils obéissent plus, ils partent, ils quittent par morceaux entiers. Et tout ça, ce que tu disais, là, ils n'y croient plus du tout, pour le coup. Là ils y... voilà. Donc là, l'armée part. Quand le cadre... Il y a deux choses. Il y a à la fois le cadre politique qui est en train de craquer parce qu'il y a la révolution. Donc ça, c'est très important. Quand on sent que le cadre qui tient l'État et la société part en morceaux, ben, ça favorise évidemment le mouvement de révolte et de refus de l'autorité. Et puis quand on croit plus à la victoire, quand on voit que ça se termine, quoi.
De fait, vraiment pour compléter là-dessus, dans l'armée allemande, on le voit très bien, c'est encore une autre forme de refus d'une certaine manière, c'est de se faire prendre prisonnier. Par milliers, à partir de l'été 18, les Allemands se laissent faire prisonnier parce que se battre à outrance, pourquoi? Pourquoi il n'y a plus d'issue? On a fait 5 grandes offensives, elles ont toutes échoué ou elles n'ont toutes pas donné les résultats suffisants. On se fait prendre prisonnier, donc on a vraiment des régiments entiers qui se font capturer et ils sortent de la guerre de cette manière-là. Ça existe aussi. Ça existait avant, mais ça n'existait pas de manière aussi massive. Ah oui, bien sûr, la situation alimentaire en Allemagne est terrifiante.
Pardon, merci. Oui, je disais que j'étais le maire de Ferrand-Terre-de-Noix et au nom de toute la population de mes collègues, je voulais vous souhaiter un bon séjour ici. Je voulais vous souhaiter une bonne marche encore demain. Merci pour cette conférence qui nous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et vous serez toujours les bienvenus à faire. Donc, même en dehors de cette marche, on sera heureux de vous accueillir. Donc, passez un bon séjour chez nous sur cette terre où il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de souffrances et... C'est toujours très émouvant. Je pourrais parler deux secondes des Américains qui nous ont... Et je pense que ce serait bien que vous alliez voir un monument absolument magnifique, un lieu où s'est passée une bataille qui s'appelle la bataille de la Croix-Rouge. Ils ont laissé 162 hommes en une matinée, en une journée, j'exagère quand même, et plusieurs milliers de blessés. Et prenez le temps d'aller voir cette... c'est une vraie Pietà, c'est un monument absolument magnifique qui va vous remplir d'émotions. Donc... Oui, voilà, c'est le soldat qui porte dans ses bras son copain qui est mort et sur le lieu de la bataille. Donc, profitez un petit peu de ce temps-là pour vous rendre là. Merci à vous tous et puis continuez. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Au revoir.
Je sais pas si... André, tu veux peut-être conclure. Tu as une conclusion à donner ou pas? Donc je peux seulement dire un mot. Je veux dire un mot, c'est que moi, je suis vraiment heureux quand je me trouve dans des situations comme celle-là, non seulement l'action directe qu'on a, nous, en marchant sur le terrain, mais en recevant des jeunes historiens comme ça, que j'ai... Oui, c'est vrai, André. Mais il y a quand même un bail qu'on se connaît. Et je voudrais seulement mettre en relief quelque chose par rapport à ce qu'on a eu l'habitude de connaître sur les chercheurs et les historiens-chercheurs. C'est qu'ils sont venus sur le terrain très, très tôt. En fin de compte, je ne sais pas si ça vous a aidé beaucoup, mais je peux vous dire qu'ils sont venus sur le terrain très très tôt, faire ce qu'on fait actuellement, marcher, redécouvrir et tout ça. Et aussi d'abandonner un petit peu de leur individualité, hein, ou de leur identité individuelle, je veux dire, en tant qu'historien et chercheur, pour partager avec d'autres chercheurs, d'autres historiens, s'affronter à des sociologues, à des politologues, à des gens comme ça. Et je trouve que c'est je pense que si le CRID disparaît un jour, ce que je ne souhaite pas, mais que je disparaîtrai peut-être avant, mais c'est de dire que le CRID a aider à faire une méthodologie de toutes les études, de toutes les, une plateforme, si vous voulez, où il y a des échanges assez absolument remarquables, chacun avec sa qualité, chacun avec ses connaissances, et chacun surtout avec son ambition quelque part. Et c'est ça qui est bien dans cette association-là, c'est que chacun a laissé un petit peu de son ambition sans la perdre, et pour la partager avec tout le monde, avec les autres en tout cas.